Bonjour à toutes et tous. Donc vous êtes sur la radio Graphite 94.9, pardon, graphite.net sur le web. Je suis Stéphane. On écoute aujourd'hui des étudiants de l'UTC nous parler de leur projet de IS03 autour de la low-technicisation et le numérique. Je suis dans le studio avec Léo, Maxence et Samuel. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Et donc, vous allez nous présenter votre projet 8 milliards d'internautes. Alors, c'est un projet dont on a déjà commencé à parler. Vous étiez deux groupes à travailler sur des volets un petit peu complémentaires. On va y revenir dans un instant. Juste avant, on a aussi écouté Mathéo, Mathilde et Anne nous parler de leur projet de territoire, l'ONUM, réalisé notamment avec la mairie d'Évry-Courcouronnes et en particulier avec Anne-Laure Ligoza, que j'avais oublié de mentionner. Et puis on parlera ensuite encore d'autres projets. On parlera un petit peu de cinéma, de médias sociaux et d'ordinateurs durables. Mais donc on va revenir sur le projet de Léo, Maxence et Samuel, 8 milliards d'internautes. L'objectif est donc d'effectuer des études de sites web afin d'évaluer leur impact environnemental. Je précise que vous avez été aidé, accompagné par Sylvain Spinelli de la société Kélis pour mener ce travail. Mais à présent, je vous laisse la main.
Eh bien, bonjour à tous, bonjour Monsieur Croza. Nous sommes le groupe 8M1, alias 8 milliards d'internautes volume 1. Ce groupe réside dans un système d'évaluation environnementale des sites web. L'objectif est de permettre d'effectuer des études détaillées de sites web pour évaluer leur impact environnemental. Ces études sont effectuées grâce à des critères individuels et précis en fonction du type de site web évalué. Pour ce projet, nous aurons deux livrables qui seront tout d'abord un site web nommé 8MWeb qui permettra de répertorier tous les critères permettant d'évaluer les sites web, mais aussi tous les rapports qui ont été effectués précédemment. Ensuite, nous aurons aussi 8MSI, le logiciel, qui sera une API qui sera définie plus tard, qui permettra d'envoyer et de réceptionner des informations et des données.
Donc bonjour à tous, je vais rapidement vous présenter le plan de notre présentation. Donc premièrement, Maxence vous présentera les trois grands thèmes de notre sujet qui sont ressortis pendant la phase d'état de l'art. Ensuite, moi-même, je présenterai les deux idées phares de notre projet en les illustrant avec des petites histoires. Et enfin, Léo vous présentera la partie d'auto-évaluation de notre projet avec une présentation de l'outil Greenwashing.
Ok, donc l'état de l'art. Donc l'état de l'art, il faut savoir que c'est une étape qui a pour but de regrouper toutes les informations qui peuvent graviter autour d'un projet. Et donc, à la suite de l'état de l'art sur notre sujet, nous nous sommes rendus compte que les recherches autour de notre objectif, qui est donc de fournir un site web qui référence les critères existants afin de limiter les impacts des sites web, comportent trois idées principales, qui sont donc l'éco-conception, l'optimisation et l'analyse critique. Donc, quant à l'éco-conception du numérique vise à réduire l'impact environnemental des produits et services du numérique. Il s'agit d'un concept qu'on peut retrouver dans une étude disponible sur la HAL, donc une plateforme en ligne développée par le CNRS, qui s'occupe de référencer et des publications scientifiques françaises. Donc, l'intitulé est « L'éco-conception d'un service web numérique, des actions pour réduire l'impact du web environnemental », dont les contributeurs sont Cyril Bonamy, Cédric Boudinet, Laurent Bourgès, Karine Dassas, Laurent Lefebvre, Benjamin Ninassi et Francis Vitat. Et donc, l'éco-conception implique de prendre en compte des considérations environnementales dès la conception, en se concentrant sur la réduction de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de la gestion des déchets électroniques. Afin d'avoir une éco-conception bien réussie, il est important de suivre certains critères, qui sont donc la réduction de la consommation d'énergie, la limitation de l'empreinte carbone, l'éco-conception des composants et l'optimisation de la durée de vie. Sachez que si ce sujet vous intéresse, le gouvernement français propose sur son site éco-responsable-numérique.gouv une boîte à outils proposant différents services web et logiciels dans l'optique d'analyser son empreinte écologique. Mais donc, avant de continuer, je tiens à vous faire écouter un petit extrait de Consomac sur l'éco-conception. Donc Consomac, c'est un programme télévisé de l'Institut National de la Consommation qui a pour but d'éclairer les consommateurs dans le quotidien, les aidant à mieux consommer et à faire les bons choix. C'est un programme diffusé tous les jours sur France 2. L'émission, elle, date de 2015 et interroge Hélène Bortier-Puig de l'ADEME sur la définition de l'éco-conception.
L'éco-conception tend à diminuer l'impact environnemental des produits que nous consommons. Pour réduire, il faut d'abord analyser le cycle de vie du produit.
Donc on considère le cycle de vie d'un produit comme ça, du départ, de toutes les matières qu'il a fallu pour le produire, jusqu'à sa fin de vie.
À partir de là, il s'agit pour les industriels de mesurer à chaque étape les impacts sur l'air, l'eau, la consommation d'énergie et l'utilisation des ressources non renouvelables.
Si on s'aperçoit que la majorité des impacts, c'est sur l'usage du produit, par exemple une grosse consommation d'énergie, on va chercher à réduire cette consommation d'énergie au moment de la conception du produit.
Et donc un produit éco-conçu, qu'est-ce que c'est ?
Il a deux définitions quelque part. Il est performant environnementalement, c'est-à-dire qu'on a limité ses impacts sur l'environnement, mais il n'a pas zéro impact quand même, hein. On les a limités, et il est performant dans son efficacité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on limite ses impacts qu'il va être moins bon à l'usage.
Ok, donc maintenant que vous avez sûrement une idée plus claire de ce que c'est l'éco-conception, il nous reste à voir les deux autres idées que sont l'optimisation et l'analyse critique d'un site web. Donc en ce qui concerne l'optimisation d'un site web, plusieurs éléments sont importants. Il faut optimiser les flux de données en réduisant la quantité de données transférées et en optimisant le nombre de requêtes et de réponses. Le choix du langage de programmation et de l'hébergeur, ainsi que le type du serveur, peuvent jouer un rôle dans la performance du site. De plus, il est essentiel de pouvoir réduire la taille des fichiers et de garder le site web aussi simple que possible. Tous ceux-ci sont des critères que l'on retrouve par exemple sur le manifeste proposé par le site Homebrew Server, qui est donc une communauté open source de création d'OS qui nous explique comment construire un site web en partant de zéro et en expliquant comment l'optimiser au mieux. Quant à l'analyse critique, c'est le terme que nous avons choisi pour définir le fait qu'il est essentiel de prendre en compte le type de site web étudié. Il est évident que certains sites de vidéos consommeront beaucoup plus d'énergie qu'un simple blog. Par conséquent, une analyse comparative entre différents sites web d'une même catégorie est indispensable pour obtenir des résultats cohérents. Donc, en résumé, une étude approfondie sur l'impact environnemental des sites web nécessite une analyse comparative de l'éco-conception et de l'optimisation entre des sites de type similaire. De plus, il est primordial de reconnaître que certains sites peuvent adopter une politique de respect de l'environnement tout en promouvant des activités préoccupantes sur le plan écologique. Chaque utilisateur doit donc exercer son discernement pour décider de l'utilisation des sites web en fonction de ses propres valeurs et des considérations environnementales.
Ok, donc maintenant que Maxence vous a présenté les grandes pistes de notre projet, nous allons passer à une autre partie qui correspond à l'idéation, phase de notre projet qui nous a permis de faire remonter de nouvelles idées. Parmi celles-ci, deux idées phares sont ressorties, et ce sont celles donc que je vais vous présenter tout de suite. La première idée phare de notre projet est la création d'une critériologie. Cette idée consiste à créer au sein de 8M Web, donc notre site, une page regroupant l'ensemble des critères utilisés dans différentes études. Chaque critère sera expliqué avec des cas concrets d'utilisation. De plus, sachant que nos études se doivent d'être personnalisées pour chaque type de service web, la critériologie présentera des critères, les critères les plus adaptés pour chaque type de site et les points positifs et négatifs de chacun. Cette fonctionnalité permettra à chaque nouvelle étude de retrouver rapidement les différents critères à évaluer et permettra également de constituer une base de données claire de tous les critères possibles. Donc pour illustrer ces idées, nous avons réalisé, durant la phase de maquettage qui permet de développer ces idées, des petites histoires qui permettent de visualiser les idées de notre projet dans des cas d'utilisation précis. Donc pour cette première idée phare, nous avons l'histoire de Nicolas qui tombe sur une étude de 8M1 sur eBay et qui se demande sur quels critères a été réalisée cette étude. Il se rend donc sur le site de 8M1 et recherche l'analyse technique sur les plateformes de e-commerce ainsi que la critériologie. Dans l'analyse, il découvre les détails techniques sur comment ont été récupérées les informations et comment elles sont corrélées aux quatre grands thèmes de la méthodologie. Il découvre la consommation des data centers d'eBay ou même l'évaluation de l'ergonomie d'eBay qui est déplorable avec un service qui ne respecte pas les normes d'accessibilité. Nicolas découvre ainsi que les études effectuées découlent de la critériologie se concentrent spécifiquement sur chaque type de site web. Ensuite, la deuxième idée phare de notre projet est la création d'une API. Donc très rapidement, une API est une interface technique qui permet pour un service web d'envoyer et de récupérer des données. Premièrement, cette API pourrait permettre aux propriétaires de sites web qui le souhaitent de librement envoyer leurs données dans notre base de données et permettrait également de récupérer automatiquement les données accessibles de certains services web. Ensuite, dans le sens inverse et dans une optique de commun, les utilisateurs pourraient automatiquement récupérer l'ensemble des données chiffrées de nos études. On peut illustrer ceci par l'histoire de Patrick, un des concepteurs du tout nouveau navigateur Ecodia. Donc depuis peu, Patrick développe une extension web Ecodia qui permet d'afficher les caractéristiques de consommation et d'accessibilité d'un site avec le nombre de requêtes et des disclaimers quant à des pratiques ne favorisant pas l'accessibilité. Pour cela, il utilise 8M Software, le logiciel de 8M1. À partir de celui-ci, il peut appeler l'API et recevoir des informations comme le nombre de requêtes ou le poids de la page, si celui-ci est répertorié. Ce call d'API récupère principalement les données factuelles de la base de données, mais Ecodia renvoie vers les études de 8 milliards d'utilisateurs quand le site visité a été évalué. Donc maintenant, je laisse Léo vous présenter l'auto-évaluation.
Merci Samuel. Pour terminer cette présentation, je vais à présent vous parler de l'auto-évaluation. L'auto-évaluation est un processus d'évaluation qualitative permettant d'estimer les impacts et d'anticiper les conséquences de notre projet. Ainsi, nous allons faire le focus sur un des outils que nous avons manipulé pour évaluer les limites potentielles de notre projet. Nous allons étudier l'outil greenwashing. Avant tout, qu'est-ce que le greenwashing ? Le greenwashing est le fait de tromper les consommateurs sur les pratiques environnementales d'une société ou les avantages environnementaux d'un produit ou d'un service. Il est possible de l'évaluer selon trois points. Tout d'abord, la négligence, qui peut être une absence de preuve ou une imprécision. Ensuite, la manipulation, qui peut présenter un compromis caché, une non-pertinence. Par exemple, pour un exemple de manipulation, une entreprise prétend investir massivement dans les énergies renouvelables, mais en réalité, la majeure partie de sa production d'électricité provient toujours de sources polluantes telles que le charbon ou encore le gaz naturel. Puis, le mensonge, pouvant être un faux écolabel ou d'autres mensonges comme une prétention fausse. Ces trois points permettront d'évaluer notre projet et d'en faire ressortir ses limites. Le but de cette partie n'est pas de lister l'ensemble des risques de l'outil greenwashing, mais de vous présenter certains points principaux. Nous allons démarrer par le point négligence et parler de l'imprécision du domaine autour duquel s'articule notre projet. En effet, dans le domaine du numérique, l'avancée des technologies est rapide et complexe. Il est particulièrement difficile d'estimer précisément l'impact émis par ces technologies. Pour un exemple de rapidité, nous avons par exemple l'intelligence artificielle, qui, d'après le Robert, l'intelligence artificielle représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Ce processus est arrivé récemment et a aujourd'hui un grand impact. Ensuite, pour un exemple de complexité, nous avons le fait que l'impact du numérique n'est pas seulement du carbone, il est aussi lié par exemple à des matériaux comme les terres rares ou encore l'eau. Selon Green IT, en 2019, le numérique représente un septième continent de la taille de 2 à 3 fois la France. Ainsi, il sera difficile de prendre en compte tous les critères environnementaux pour évaluer l'impact des sites web. Par exemple, un site web peut obtenir une bonne évaluation par 8M1. Néanmoins, ce site peut embarquer une technologie qui pose des problèmes non répertoriés dans notre critériologie, ce qui entraînerait des résultats imprécis. Prenons l'exemple d'un site web d'information qui est considéré comme respectueux de l'environnement en suivant notre méthodologie. Ce site web possède un chatbot, logiciel qui dialogue avec un utilisateur, utilisant un nouveau modèle d'IA qui est une technologie qui, d'après le CNRS, représente un impact direct sur, par exemple, le cycle de vie des équipements, mais aussi un impact indirect sur l'environnement. Si la critériologie n'a pas encore répertorié ce critère d'évaluation, alors il sera compliqué d'évaluer ce site web correctement. Ensuite, passons à la manipulation en parlant du péché moindre mal. En effet, même si nos études ont pour vocation d'être les plus complètes possibles, elles restent concentrées sur l'évaluation des services web et non sur l'entreprise ou sur le service en général. Le risque est donc qu'un service web reçoit une évaluation positive, mais que le service rendu par la plateforme soit lui nocif pour l'environnement. Imaginons qu'un géant du commerce en ligne ait conçu son service web en respectant toutes ses normes et donc qu'il reçoive une évaluation positive de la part de 8M1. Le site web est donc bien conçu, mais cela ne légitime pas les actions de ce géant qui peuvent poser des problématiques environnementales ou encore éthiques. Enfin, pour terminer, nous allons parler du péché du mensonge. Certaines des données des rapports 8M1 viennent des données fournies par les entreprises. Certaines d'entre elles, récupérées par l'API définie auparavant, sont difficilement vérifiables. Par exemple, le nombre de requêtes d'un site par minute ou plus généralement tout ce qui se passe du côté serveur. Ainsi, les services pourraient transmettre des données mensongères dans le but de recevoir une évaluation positive par 8M1. Merci de nous avoir écoutés. Nous tenions à remercier Stéphane Croza de l'opportunité d'effectuer cette UV et de découvrir le domaine du low-tech. Et aussi de remercier notre suiveur Sylvain Spinelli qui nous a permis de comprendre énormément de choses par rapport à ce sujet.
Merci à tous les trois pour cette présentation claire et complémentaire donc de celle que l'on a eue tout à l'heure par vos collègues du projet 8M2. Peut-être une toute première question, il y a eu deux, trois petites questions de clarification, je vous propose. Est-ce que vous avez des exemples de critères comme ça là qui seraient présents dans votre base de données ? Alors vous avez cité des grandes catégories hein, autour de l'énergie, du carbone, des composants, etc. Est-ce que vous avez des choses un peu plus précises ou des éléments particuliers en tête, là sous la main ?
Par exemple, déjà, d'un point de vue vraiment plus quantifiable, il y a tous les critères avec le nombre de requêtes envoyées par le site, le poids de chaque page en moyenne, mais il va aussi y avoir le type d'hébergement, s'il est hébergé sur des hébergeurs respectant l'environnement en termes d'énergie, etc. D'autres critères, voilà. D'autres
aussi, exemples. Le langage de programmation ou encore la complexité du site qui peuvent influer énormément sur son optimisation.
Merci, okay.
Sur les langages de programmation, il y avait une autre question. Est-ce que vous avez eu connaissance d'études, là, vous avez trouvé des, alors soit des rapports, soit des axes de recherche, enfin des données un petit peu fiables qui tendent effectivement à mettre en avant certains langages plutôt que d'autres, peut-être en fonction des usages, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là ?
Alors, ce n'est pas forcément des rapports ou des données, on n'aura pas de données à proprement parler, mais on sait que l'utilisation de langages de base, par exemple HTML et CSS qui sont utilisés pour la création de sites, sont moins énergivores que par exemple des frameworks qui sont des surcouches de langage permettant la simplicité d'écriture. Donc l'utilisation de langages plus basiques entre guillemets permet une consommation plus faible. Et tout à l'heure je parlais de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est principalement du Python ou du Lisp. Et le Lisp, c'est le langage de base pour l'intelligence artificielle, donc qui consommera moins, puisque Python possède plus d'implémentations qui consomment plus.
Ok, même si, alors je pense quand même que ces éléments sont pas mal discutés, donc je pense que dans les choses à faire, il y a vraiment d'aller essayer d'aller approfondir ces questions-là. Par exemple, ce que tu dis sur le HTML et le CSS par rapport au framework, en quelque sorte, c'est théoriquement vrai, c'est-à-dire que moins on utilise de couches, et bien plus on va aller directement à l'efficacité. Mais en pratique, on peut aussi avoir des effets d'économie d'échelle ou d'optimisation qui peuvent être obtenus par des frameworks. Donc ça fait partie de choses qui peuvent être travaillées de façon assez rigoureuse. Donc ce sera intéressant de suivre les travaux autour de ça.
Et d'ailleurs aussi, sur le CSS et HTML, on vient de parler de la consommation, mais souvent aussi de coder que dans ces deux langage-là, ça permet aussi une meilleure accessibilité parce qu'il y a des outils, par exemple, pour les malentendants ou d'autres handicaps qui permettent de lire les pages. Et s'il y a trop de surcouches, ces outils ne vont pas forcément fonctionner. Donc même pour l'accessibilité, juste ces deux langages, c'est plus bénéfique.
Ok, alors très bien, il y avait justement il y avait une question autour de l'accessibilité. Est-ce que tu peux, est-ce que tu saurais rappeler en un ou deux mots, en donner la définition ? Ou est-ce que tu veux que je la fasse ?
C'est assez compliqué, mais vous pouvez la faire. Je pourrais en donner une, mais je ne suis pas sûr que ce soit la plus précise possible.
Mais écoute, je ne vais pas forcément donner non plus une définition très précise, mais l'idée, effectivement, c'est de favoriser les possibilités de lecture du contenu, quels que soient, en quelque sorte, les outils qu'on va utiliser pour accéder au site web et quels que soient les utilisateurs humains qui sont derrière ces outils. Donc, tu as cité l'exemple des malentendants ou des malvoyants ou du fait que vous vouliez consulter sur un petit écran, un grand écran, un téléphone, un petit débit, un gros débit, etc. Donc l'idée générale de l'accessibilité, c'est que, on va chercher à faire des contenus web de telle façon que un maximum de monde puisse et de dispositifs puissent les lire. Léo, je crois que tu veux compléter un petit peu. Et puis la question complémentaire néanmoins autour de l'accessibilité, c'était pourquoi c'est important et pourquoi ça rentre dans vos critères ?
Moi, c'était juste pour compléter ce que Samuel a dit, ce que vous avez dit, par rapport, il y a une dimension humaine, mais il y a aussi une dimension technique de machine. Si, par exemple, dans un site en HTML et CSS, il y a énormément de JavaScript qui est rajouté, qui est un langage qui demande pas mal de temps et de puissance pour être chargé, des machines qui sont moins puissantes, ça peut-être pourrait les empêcher de charger plus facilement la page. Donc, il y a aussi une dimension humaine et aussi une dimension technique.
Alors, t'as presque donné la réponse à ma deuxième question, c'est-à-dire en quoi c'est important. Peut-être en continuant sur ton exemple, est-ce qu'on voit le lien avec la soutenabilité qui peut arriver du coup ?
Ce serait tout simplement de pouvoir permettre à tous d'utiliser des sites web et que ce soit ouvert pour tout le monde. Et t'as quelque chose à dire ?
Mais je disais juste que pour la soutenabilité, donc là ce serait plus la convivialité, donc ce que disait Léo. Et pour la soutenabilité, c'est tout simple. Comme le disait Léo dans sa présentation, une erreur qui est souvent faite, c'est l'utilisation, de prendre comme critère que les émissions de carbone. Donc bien sûr, ça réduirait les consommations de carbone. Mais comme dit dans la présentation, si ces sites web sont codés en HTML, seulement HTML, CSS, ça permettrait de garder ces sites web plus longtemps et à plus long terme. Donc, de réduire l'obsolescence des logiciels et donc par conséquence réduire l'obsolescence des matériels numériques.
Ouais, en effet, on commence à être parfois obligé de modifier le matériel, que ce soit côté client, donc les ordinateurs, les smartphones qu'on utilise, ou que ce soit côté serveur, le type de machines qui font tourner les sites, et bien parce qu'à un moment, ceux-ci peuvent devenir, comme vous l'avez dit, trop gourmands. Donc peut-être ça fait un lien, effectivement, entre accessibilité et durabilité. Allez, peut-être un dernier petit point. Tu as mentionné un moment, je crois, Samuel, au détour d'une phrase, le mot de commun. Est-ce que vous voulez expliquer un petit peu plus en quoi votre projet peut être considéré comme, on va dire, les prémices ou l'optique de construction de ce que l'on appelle un commun ?
Premièrement, dans nos critères en tant que tels, le commun est considéré. Donc le commun, c'est une notion très large. Sans rentrer dans les détails, nous, on ne prend que certains aspects de celle-ci. Dans ces aspects-là, dans nos critères, on va avoir ce qui est l'open source, donc que les services web rendent leur code public, qu'on puisse collaborer donc d'une manière un peu communautaire pour proposer des améliorations, etc. Et il y aura aussi l'open data, donc c'est de rendre les données accessibles, donc que ce soit les données utilisateurs, les données de consommation, etc. Tout cela, ça rentre dans une optique de commun, car à partir de toutes les données que nous allons répertorier dans la base de données, les concepteurs de services pourront réutiliser ces données pour faire d'autres services comme Ecodia, mais pourront aussi nous aider dans le développement de ce service avec 8M1. Donc c'est vraiment un outil communautaire où les utilisateurs peuvent nous apporter des ressources et nous on peut leur apporter des informations.
Allez, un dernier mot à toi, Léo.
Pour juste ajouter quelque chose à ce que dit Samuel, c'est donc les utilisateurs peuvent rajouter, mais aussi peuvent proposer grâce au ticket, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais directement dans le site et implémenter une catégorie de ticket où les utilisateurs peuvent proposer des suggestions pour améliorer les critères et juste proposer des suggestions. Et aussi, l'API permet de récupérer les données de sites web et enfin, les récupérer et les répertorier. Donc ça permet aussi aux communs d'avoir plus d'informations sur les sites web qu'ils utilisent au quotidien.
Ok, merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite une bonne fin de journée et donc on refait une pause musicale avant le prochain projet qui s'appelle Ciné La.